di bello. Incredibile, donna. Io avete stoicia. Avete orgoglio, avete neopitalismo. Vous êtes comme l'Église, réaffirme l'existence de l'âme et de l'âme humaine, créée par Dieu. Je crois que saint Thomas est le grand théologien de la personne humaine. Et si j'avais le temps, je montrerais que la grandeur de saint Thomas est d'avoir fait l'équilibre et l'harmonie entre l'âme et la personne. Je crois que là, il apporte quelque chose de
au niveau scientifique.
couleur des yeux, etc. Tout à fait d'accord. Condition sine qua non. Ça se prend du côté de la matière. Il faut qu'il y ait l'ADN pour qu'il y ait un vivant. Mais pas plus. Je veux pas dire plus. C'est pas ça qui est la cause. Si vous avez suffisamment présent dans l'esprit le fameux livre de Momo à propos de la nécessité du hasard, si vous regardez ce livre de Momo avec un tout petit peu le sens philosophique, vous voyez que Momo confond les conditions sine qua non et la cause. Ça, c'est très intéressant à noter au point de vue philosophique. Vous comprenez que le savant ne peut pas saisir l'arme. Au niveau biologique, une toconie, il ne peut saisir que le point de vue de la cause matérielle qu'on mesure. Donc les conditions sine qua non pour qu'il y ait un vivant. Il ne peut pas dire plus. Le philosophe doit parler de l'âme. Et je dis bien, le philosophe doit parler de l'âme. Le philosophe ne peut pas se contenter qu'on parle de la personne humaine sans parler de l'âme.
Et humain. C'est pour ça qu'à cause de cette découverte
C'est une conception in vitro qui n'est pas liée au naturel. Je crois, je ne peux pas le dire d'une façon absolue, mais je crois que philosophiquement, il y aura nécessairement des traumatismes extrêmement violents qui se manifesteront après. Parce que ce n'est pas le milieu naturel. Et c'est pour ça que je dirais qu'au plein vue du moment philosophique, indépendamment des décisions de l'Église, je dirais qu'on n'a pas le droit de faire cette expérience par rapport à l'homme, par rapport à la dignité de l'homme. Parce qu'on ne sait pas où l'on va. Plus l'être humain est fragile, plus on doit le respecter. Ça, c'est un grand principe de morale. Plus l'être humain est fragile. Parce que moins on le connaît, et donc plus on doit être vigilant vis-à-vis de lui. Le point de vue de l'efficacité ne suffit pas de justifier cela. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a le respect à l'égard de l'être humain. Et ça, c'est des sujets énormes et qui sont très importants à être regardés aujourd'hui, puisque, de fait, avec les dernières décisions d'Église, le philosophe et le théologien doivent nécessairement traiter ces sujets. L'Église donne des précisions. Elle est en état d'alerte. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église d'être philosophe et d'être théologien. C'est les philosophes et les théologiens qui doivent regarder cela et l'expliquer aux savants. On ne peut pas traiter l'être humain d'un point de vue purement biologique. On ne doit pas dire du côté biologique, il n'y a aucun inconvénient, donc il n'y a aucun inconvénient au point de vue humain. Je dirais non. Le point de vue biologique ne regarde pas l'être humain dans sa plénitude. L'être humain dans sa plénitude implique le point de vue de l'âme. Et donc ne regarder que le point de vue biologique, c'est un point de vue partiel. Et faire de ce point de vue partiel un point de vue total, c'est ce qu'on appelle une hérésie. Transformer un aspect partiel pour un point de vue total. Avez-vous bien dit, son âme, la forme de corps, toutes les données sont transformées par elle. Et surtout ceci, le chiffre biologique. Même changé. Pouvez-vous expliquer? C'est ce que je viens de redire. J'avais pas lu ça avant. C'est que l'âme, forme du corps, est forme du corps jusqu'au bout. Mon âme est présente au bout de mon petit doigt. Forcément. Puisque elle est indivisible. Comme substance du corps. Donc elle agit dans ce qui est de plus radical et de plus profond. Elle est présente dans toutes les parties du corps. C'est le propre de l'âme. C'est pour ça que je peux vous dire qu'il n'y a qu'une partie du corps qui est transformée par l'âme. C'est le corps humain qui est totalement un corps humain. Dans tout ce qu'il est. C'est pour ça qu'on respecte le corps de l'homme. À cause de l'âme. Je ne peux pas dire que c'est simplement la partie supérieure. Non, c'est tout le corps humain qui est un corps humain. Au plan purement philosophique, Non, c'est aperçu, c'est impossible. C'est très curieux, mais c'est intéressant, puisque le sang exprime d'une façon très particulière l'information de l'âme par rapport au corps. Puisque dans la révélation judéo-chrétienne, on dit que le sang, c'est l'âme. C'est dit dans l'écriture dans l'Ancien Testament. C'est très beau, du reste. Le sang, c'est l'âme. Parce que le sang, c'est la partie, j'allais dire, la plus vitale du corps. Et donc celle qui est le plus immédiatement sous l'influence de l'âme. C'est tout le symbolisme du sang. Quand le sang est versé, l'âme s'en va. Elle a perdu son âme quand le sang est versé. C'est très, très... C'est dans un langage symbolique, mais qui exprime quelque chose de très réel. Vous nous avez dit que dès sa conception, l'homme avait son chiffre propre. Pouvez-vous plus expliciter à ce sujet? Je ne vais pas le faire, puisque ça c'est un point de vue beaucoup plus biologique. Je n'ose pas le faire maintenant. J'ai entendu dire que la réincarnation, si elle n'est plus envisageable depuis la venue de Jésus Rédempteur, était fort bien avant. Que pensez-vous d'une telle position? Non, philosophiquement, c'est impossible. Étant donné l'unité substantielle du corps et de l'âme, elle est très possible dans une vision platonicienne. C'est ça qu'il faut dire. Dans une vision platonicienne, c'est très possible. Platon envisageait la réincarnation. Vous savez bien, je vous ai dit. Si l'homme se conduit mal, il se réincarne dans une femme. Et si une femme se conduit mal, il se réincarne dans un animal. C'est comme ça que Platon dit, le divin Platon. Une fois que vous comprenez ça, vous dites quoi, divin? Parce que quand même, il ne respecte pas tout à fait ce que représente la dignité de la femme. La réincarnation est inexplicable. Je dis bien au plan philosophique. Dès que vous avez un réalisme suffisant pour comprendre que l'unité de l'âme et du corps est une idée substantielle et indivisible. Chacun d'entre nous, nous avons quand même suffisamment la conscience que lorsque nous mangeons, que lorsque nous pensons, lorsque nous sommes fatigués ou lorsque nous sommes euphoriques, c'est quand même la même personne. Le « je suis ». C'est très important de réfléchir sur le « je suis », parce que c'est par là que nous touchons expérimentalement notre unité personnelle. « Je suis ». Et ça me frappe beaucoup, oui, dans l'évangile de Saint Jean. On retrouve cette forme constamment où Jésus dit « ego eimi, je suis ». Je suis la lumière du monde. Je suis le bon pasteur. Je suis. C'est très très extraordinaire de voir que le dernier livre de la Révélation, l'évangile de Jean, Jésus affirme tellement sur le je suis. Ça c'est la personne. Le je suis c'est notre personne. Et le je suis prend toute notre âme et tout notre corps. Prend tout ce que nous sommes je suis. Et ça c'est une idée substantielle de notre être. Et cette unité substantielle de notre être, c'est une chose extrêmement importante à saisir. Vous dites que l'âme spirituelle, pour chaque individu, ne peut être donnée que par Dieu. Problème de la transmission du péché originel. Alors, philosophiquement, c'est un très gros problème, je comprends très bien. Le vieil Aristote, sans parler de Platon, sans parler de Pépin, considérait que l'âme ne pouvait être créée que par Dieu. Mais je crois que philosophiquement, nous pouvons très bien, progressivement, poser le problème et montrer que l'âme spirituelle ne peut être créée que par Dieu. L'âme humaine, tout court. Pourquoi? Parce qu'il y a en elle quelque chose d'immatériel. Qui est donc au-delà de la procréation et la formation du corps. Et la transmission du péché originel se fait justement par le point de vue du corps. L'âme créée par Dieu est pure. Mais dès qu'elle est liée au corps, par la transmission du corps, elle est affectée du péché originel, elle est affectée de la faute. Donc c'est par le corps que se commet le péché originel, pas par l'âme. C'est dans ce sens-là que le point de vue de l'âme, elle est, elle, spirituelle, et c'est pour ça que je vous disais, il ne faut jamais l'oublier.
Thank you.
humain n'a de sens que par rapport à sa finalité, ce pourquoi nous vivons. Quand on ne regarde plus la finalité, vous savez bien, la vie n'a plus de sens. Et ça conduit au suicide. C'est ça qui est terrible. Quand on sait pourquoi on existe et qu'on vit, on a une très grande force. Parce qu'on cherche un but, un but humain, une finalité humaine. Tandis quand on ne sait plus, quand on ne sait pas où on va, on regarde que le conditionnement. Et le conditionnement, à certains moments, peut paraître quelque chose de terrible. On est comme en situation limite. Et la situation limite, c'est qu'à ce moment-là, on ne sait plus comment échapper. Et quand on ne sait plus comment échapper, alors à ce moment-là, il peut y avoir un moment de faiblesse, de fragilité. Il dit, je disparais. C'est encore mieux. Qu'est-ce que je fiche là ? On disparaît. Mais le fameux psychanalyste que j'ai bien connu pendant un certain nombre d'années, psychanalyste freudien, puisque nous avions un dialogue serré entre nous, me disait toujours qu'au moment de l'analyse, puisque je vis de la neuvième béatitude, qui est de ne pas avoir été psychanalysé. Respirar. en percédant ses cheveux. Comme l'âme est assez libre par rapport aux cheveux, il ne repousse pas nécessairement. Mais c'est sûr. Mais on voit très bien comment le fait de pouvoir greffer. C'est très curieux la greffe, c'est un phénomène qui est moi qui m'intéresse beaucoup. J'ai suivi des malades que je connaissais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Greffe des reins. Comme c'est un phénomène tellement curieux. Et comme c'est intéressant, parce que les premiers pères de l'Église parlaient de la grâce en disant que c'est une grève divine dans l'âme. Je crois que les pères de l'Église seraient très intéressés par les grèves qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'il y a le phénomène du rejet de la grève. Ce que les pères de l'Église ne pouvaient pas dire. Et c'est très intéressant quand vous appliquez ça au phénomène, justement, de la grâce. Comment se fait-il que quelquefois il y a des rejets? Le rejet de la grève. C'est un phénomène très curieux quand l'harmonie n'est pas suffisamment forte, quand il y a une trop grande diversité, et que l'âme n'a pas pu informer. Ce phénomène de l'âme qui informe quelque chose qu'on apporte de nouveau. Et qui fait que l'unité doit être sauvegardée. Il faut qu'il y ait l'unité de l'individu. C'est ça que ça veut dire quand la grève est rejetée. Alors c'est une question de disposition, une disposition d'homogénéité. C'est très difficile, et je crois que scientifiquement c'est très très difficile de pouvoir exactement fixer. On peut avoir des limites, mais expliquer ce phénomène, je crois que ça ne peut s'expliquer que philosophiquement, par le point de vue de l'âme qui assume cette partie nouvelle apportée. Et cette partie nouvelle apportée, selon les dispositions et l'harmonie, alors on peut comprendre comment l'âme ramène toute l'unité. L'unité profonde de notre être provient de notre âme. Alors, je m'excuse, il fallait répondre à ces questions parce que c'est important. Alors maintenant, regardez un problème très important et qui est la conséquence, de sorte que je ne serai pas trop long, ne craignez pas. La mort biologique et l'immortalité de l'âme. La mort biologique, nous avons toujours de parler de la mort. C'est agréable. Je suis d'accord. Au début du carême, on dit tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et on dit ça très rapidement. Et même on a trouvé une nouvelle formule parce que c'était un tout petit peu brutal de dire ça. Mais je l'aime bien cette formule parce que c'est tellement réaliste. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'est quand même bon de rappeler ça. C'est vrai, on est lié à tout le monde physique. Alors la question de la mort biologique, pour un biologiste, j'ai interrogé des biologistes exprès, j'ai des amis biologistes, et j'y tiens beaucoup, parce que je crois que c'est très très important d'avoir des amis biologistes, et de grands biologistes autant que possible, parce que on est vite informé sur des questions extrêmement intéressantes de la biologie d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est palpitant ces questions-là. La connaissance du corps humain, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est cathédrale de molécules, hein, comme on peut la définir avec des vitraux particuliers, qui sont les yeux. C'est extraordinaire. Au plan biologique, la mort est une nécessité. C'est ce que m'ont toujours dit les biologistes. La mort est inscrite dans notre corps. La mort est une nécessité. Et il me donnait tout simplement l'exemple que j'aime beaucoup, que j'ai retenu parce qu'il est tellement extraordinaire. S'il n'y avait pas la mort biologique, il n'y aurait que des éléphants sur notre petite planète. Donc, bien heureusement, pour ne pas avoir que des éléphants. Puisque l'éléphant est quand même l'animal particulièrement fort. Il y aurait sans doute un duel entre les éléphants et les hippopotames. Je présume, parce que ce sera duel. Parce que l'hippopotame, paraît-il, a la même force que l'éléphant. Je sais pas comment la mesurer, mais ça m'étonne pas. Je dis l'éléphant, l'hippopotame. L'hippopotame, c'est pas très drôle de se trouver face à face avec un hippopotame. Je vous l'affirme. J'ai essayé de m'approcher le plus proche possible quand j'étais dans certains coins de l'Afrique. Tout en restant prudent, parce qu'on sait très bien qu'il faut faire grande attention. La mort biologique est une nécessité. C'est inscrit dans notre corps. Parce que notre corps a un équilibre qui n'est pas très stable. Pourquoi le philosophe, je prends exprès les différents jugements pour le philosophe, est-ce que la mort est normale? Je dirais, pour la personne humaine, la mort n'est pas normale. Elle est violente. Je dis bien pour la personne humaine. Si j'ai en moi une âme spirituelle, cette âme doit informer notre corps. Et donc, doit le porter. Mais cette unité personnelle qui est en moi ne demande pas du tout de disparaître. La mort, pour le philosophe, est donc une défaite de la personne humaine. C'est pour ça que j'ai dit que c'est violent. La personne humaine ne demande pas de mourir. Ce n'est pas inscrit dans la personne humaine. Que ce soit inscrit dans notre corps, très bien. Je respecte ce que dit le biologiste. Mais ce n'est pas inscrit dans la personne humaine, qui est une âme spirituelle. Et l'âme spirituelle ne demande pas la mort. Pour le théologien, voyez les trois jugements. Je crois que c'est très important. Et c'est peut-être à l'égard de la mort qu'on voit le mieux la diversité de ces jugements. Pour le théologien chrétien, la mort est une conséquence du péché. C'est ipsum peccati. C'est une conséquence du péché. Et ça, il faut le même dire. Ça fait partie de la tradition chrétienne. La mort est une conséquence du péché, donc je la subis comme une conséquence du péché. Parce que Dieu, au point de départ, n'a pas voulu la mort. Le Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu de la mort. Et Dieu avait accordé à l'homme une grâce de justice originelle qui fait que l'homme ne serait pas mort. Il serait passé de cette terre dans un autre monde avec la glorification de son corps. C'était la grâce de justice originelle. Je ne sais pas combien de temps on aurait vécu, mais on serait passé de ce monde de l'autre côté. Et donc la mort est une conséquence du péché. C'est pour ça que la mort est toujours quelque chose d'un peu effrayant. Je me souviens des réflexions de mon vieil oncle père de Haut, qui était un très saint homme. Il disait, avoir peur de la mort, ça n'a rien à voir avec la sainteté. Et je crois que c'est très vrai. Avoir peur de la mort, c'est normal. Puisque c'est une conséquence du péché. C'est pas drôle de voir la conséquence du péché s'abattre sur nous. Donc avoir peur de la mort, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec la sainteté. Dieu peut permettre, dans une grâce particulière, faire que nous offrions notre mort. De façon générale, chaque fois que vous faites un acte d'adoration, vous offrez votre mort à Dieu. Vous habituez à ça. C'est se préparer à la mort. Surtout quand on arrive à un certain âge, on se prépare à la mort. On offre sa vie à Dieu. Quand on est tout jeune, bon, très bien, mais c'est même bon. On prépare la mort de cette manière. On s'habitue à mourir. En offrant à Dieu sa vie. En l'offrant à Dieu. C'est une offrande tout de même à Dieu. Mais on sait très bien que c'est une conséquence du péché. Vous voyez, le psychologue, quatrième point de vue, le psychologue, considère que la mort est source de toutes les angoisses. Si un être ne devait pas mourir, il ne serait pas angoissé. Et donc le psychologue donne raison au philosophe. Si la mort était naturelle, on n'en aurait pas du tout. La mort ne serait pas source d'angoisse. Si la mort est source d'angoisse, ça prouve que justement, il y a quelque chose dans la mort qui n'est pas naturel. Parce qu'on peut, c'est une chose naturelle, mais c'est pas rien, c'est une chose naturelle. On peut l'aimer, mais c'est pas source d'angoisse. Tandis que si la mort est source d'angoisse, ça prouve qu'il y a quelque chose. Alors je me place un point de vue purement philosophique ici. Ni le point de vue du théologien, ni le point de vue du biologiste. Je me place un point de vue purement philosophique. Je dis que la mort biologique, c'est-à-dire la mort que nous constatons, est pour l'être humain et la personne humaine quelque chose de violent. De dur à porter. Il faut être très fort, mais d'une force non pas stoïcienne, mais d'une force profonde et vraie, pour être capable de rester debout en présence d'une mort imminente. Et vous savez très bien que c'est ce qui caractérise la vertu de force. On est fort quand on ne tremble pas en face d'une mort imminente. Soldat et ce champ de bataille. Et quand le champ de bataille vient auprès de nous par les bombardements, on sait très bien qu'en face des bombardements imminents, on frémit dans son corps, dans sa sensibilité. On a beaucoup de peine de rester debout. Les gens s'affolent, ils perdent la tête. Devant une mort imminente. L'homme devrait, s'il était parfaitement homme, comprendre que la mort, c'est vrai, elle s'impose à nous. Personne d'entre nous n'oserait dire « je ne mourrai pas ». Ça arrive en tête. Ça arrive en tête. Et personne d'entre nous n'oserait dire « je ne mourrai pas ». Thank you. de l'humanité. Parce que l'humanité, dans son équilibre, a besoin de vieillards, a besoin d'une sagesse vivante. Donc la mort, pour le philosophe, est une chose qui s'impose de façon certaine, mais c'est une chose qu'on ne doit pas rechercher. On doit tout faire pour éviter. Parce que la vie est un bien, et que la mort est un mal. La mort biologique, c'est une brisure de l'unité de la personne humaine. La personne humaine, par la mort, est brisée. Comme personne humaine dans son individualité. Et c'est en ce sens-là que c'est un mal. Parce que l'unité de notre être, c'est quand même chef-d'œuvre de Dieu. Et cette brisure est un mal. Et la mort est une brisure qui se situe au niveau de la vie. Séparation de l'âme et du corps. C'est ça la définition de la mort au plan philosophique. Séparation de l'âme et du corps. L'âme immortelle continue d'exister. Et le pauvre corps humain n'est plus un corps humain. Le vieil Aristote disait le cadavre est équivoquement corps humain. On voit ce qu'il voulait dire. Au point de vue chrétien, je mettrai un petit bémol. Mais au point de vue purement philosophique, je vois ce qu'il veut dire. C'est que le corps humain, comme corps humain, est un cadavre. Et c'est vrai. C'est aussi impressionnant. Vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime, de voir ce passage d'un corps, même s'il est maladif, même s'il est dans le coma, même s'il ne répond plus, il reste quand même une présence. Et puis subitement, il n'est plus une présence. Le cadavre n'est plus une présence. C'est une espèce d'absence. Une absence terrible. Et l'absence, séparation de l'âme et du corps, c'est quelque chose de très radical, puisque l'unité de l'âme et du corps était substantielle. Et donc, c'est une séparation substantielle, c'est donc une rupture radicale. Et une rupture qui ne peut pas se reprendre. C'est ça le tragique de la mort. Et si vous pouviez faire l'expérience de la mort, hein, si on pouvait, je pense toujours ça. Au terme d'une retraite, on fait une bonne retraite, on est tout à fait dispo. Si on pouvait faire l'expérience de la mort, et puis l'expérience de la résurrection après, l'expérience de la réanimation après, on serait délivré de cette peur de la mort, on aurait l'expérience, on aurait fait un saut périlleux, on aurait accepté, puis après on se dit, mais je sais ce que c'est. Personne d'entre nous ne peut dire qui sait ce que c'est que la mort. Nous n'avons aucune expérience de la mort, si ce n'est indirectement par rapport à ce que nous aimons. C'est terrible de ne pas avoir l'expérience de la mort. Je trouve ça effrayant au point de vue philosophique. Pas avoir l'expérience de la mort. Et voir que la mort est là. Elle nous talonne. Et plus on vieillit, plus elle est proche. On n'a pas l'expérience de la mort. Mais on ne peut pas l'avoir. L'expérience de la mort est quelque chose d'ultime, parce que ça nous fait quitter cette terre. Je sais très bien qu'on a écrit des livres aujourd'hui, n'est-ce pas, sur les expériences de ceux qui sont passés subitement dans un autre monde. Je n'ai pas eu l'expérience, moi. Si parmi vous, il y en a eu qui l'a eu, tant mieux pour vous. Je ne sais pas quelle est la valeur de cette expérience. J'ai écouté des gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu cette expérience. J'avoue, j'ai lu le livre et puis j'ai écouté. J'avoue que je ne sais pas voir exactement si c'est du monde imaginaire. Je comprends très bien qu'on jette du lest quand on est tout proche. Jeter du lest. célestes. C'est quelque chose de très agréable. Et donc on est dans un monde de pure lumière, merveilleux. Puis on n'a peut-être pas envie tellement de revenir. Sauf si on a à côté quelqu'un qu'on aime. Alors on revient pour lui. On comprend ça. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une véritable expérience intérieure? Est-ce que c'est purement imaginatif? C'est très très difficile à préciser. D'abord, c'est sûrement pas la séparation de l'âme et du corps. Sûrement pas. C'est tout simplement être dans un état de fragilité, de faiblesse telle que ça glisse et qu'on perd le contrôle et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus qu'à disparaître dans notre monde. Ça, je comprends. Je comprends très bien cet état de fragilité très très grand devant lequel on peut aller. On peut être quand de fait on est très faible. Mais à ce moment-là, l'imaginaire monte énormément. Mais on a une fièvre. La fièvre du moribond. Et alors tout proche. Parce que la fièvre augmente en nous l'imaginaire, vous savez bien. Ça nous coupe du réel. Et ça nous met dans un monde purement d'intérieur, du moins d'une intériorité sensible, imaginative. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas l'expérience de la mort. Que par nos amis. Et l'expérience de la mort, c'est le grand tremblement de terre apocalyptique qui fait une séparation de l'âme et du corps. L'âme immortelle continue de vivre. Mais je n'ai aucune expérience de cet état, de sorte qu'au plan philosophique, l'immortalité de l'âme, je l'affirme. Mais qu'est-ce qu'est la vie de l'âme dans cet état d'immortalité? Je n'en sais rien. Vous savez bien que c'était le grand problème de Gabriel Marcel. Gabriel Marcel était torturé, ce problème. Et Gabriel Marcel aurait tout fait pour essayer d'avoir une expérience. Mais ça ne lui a pas été donné. Qu'est-ce que ça représente? Je parle à plan purement philosophique. Je ne parle pas au plan chrétien. C'est très différent. Au plan purement philosophique, quel est le contact que je peux avoir avec une âme séparée? Je crois qu'au plan philosophique, il n'y a aucun contact. Et les anciens l'exprimaient bien avec le mythe de l'Hadès, le mythe des ombres. On était séparés de cette terre. Et je crois qu'on est séparé de cette terre. On est en dehors. Que représente cette vie très difficile à préciser au plan purement philosophique? Pour Platon, c'est tout à fait différent. Puisque pour Platon, l'union de l'âme et du corps étant quelque chose de purement accidentel émane une punition. La mort était la délivrance. Et donc, l'âme immortelle redevenait dans le cortège des dieux. Mais Platon disait ça sans expérience. Il disait ça uniquement dans son mythe extraordinaire de comprendre que l'âme immortelle avait quelque chose d'au-delà de tout le point de vue terrestre. De sorte que je ne peux pas suivre Platon. Mais je sais, alors là, je parle en croyant, je sais que, au point de vue chrétien, la mort prend une nouvelle signification avec le mystère de la croix du Christ. Le propre du mystère de la croix du Christ, qui est notre sagesse, c'est de comprendre que l'amour divin est victorieux de la mort. Pour le philosophe, la mort est quelque chose de purement négatif. Pour le chrétien, la mort est quelque chose de positif. C'est là toute la différence. Et je crois que c'est très important. Le mystère de la croix du Christ, le mystère de la sagesse chrétienne, c'est de comprendre la victoire de l'amour divin sur la mort. Jésus se sert de la mort, puisqu'il meurt par obéissance, pour exprimer l'absolu de son amour pour le Père et pour nous. Il se sert de la mort. La mort est quelque chose de sensible, et c'est le seul absolu sensible. Dans l'ordre sensible, seul absolu, c'est la mort. C'est pour ça que ça nous fait peur. Parce que la mort est quelque chose qu'on ne peut pas reprendre. Le relatif, c'est quelque chose qu'on peut reprendre. Quelque chose qu'on peut mesurer. Quelque chose qu'on domine. Puisque la mort, je ne la domine pas. Je ne peux pas la reprendre. C'est donc un absolu. Irréductible avec ma vie. Pour le croyant, dans le mystère de la croix du Christ, la mort est assumée par l'amour. Et donc, il y a une victoire de l'amour sur la mort. Et cette victoire de l'amour sur la mort fait que la mort peut être utilisée. Et Jésus se sert de la mort pour manifester son amour pour le Père et pour nous. C'est là la grande victoire de l'amour divin. L'amour humain ne peut pas faire ça. L'amour humain ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un je t'aime follement jusqu'à en mourir. Et pour montrer que je t'aime jusque-là, je vais me tuer pour montrer que je t'aime. Et quand vous êtes en face de quelqu'un, il vous dit ça, faut le supplier de surtout pas le faire. Ça ne servira à rien du tout. Ça ne manifestera pas du tout, putain. Mais c'est vrai que ça arrive, ces choses-là. C'est pas uniquement lyrique et romantique, mais ça arrive. Il y a des gens qui meurent pour manifester, qui vous aiment follement. Ils ne peuvent pas manifester, mais c'est extrêmement curieux, ça. C'est un peu imaginatif, on dirait, c'est un peu de la folie. C'est la folie de l'amour. C'est vrai. C'est pas bien, c'est pas ça, surtout pas. Mais seul l'amour divin peut le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que l'amour divin est substantiel, et donc donne la mort. Et l'amour divin domine la mort et promet la résurrection. C'est dans ce sens-là que l'amour divin domine la mort. S'il n'y avait pas la résurrection, je ne pourrais pas le dire. Je pourrais dire, si vous voulez, mais pas de la même façon. Je pourrais dire que l'amour divin a une force telle, parce qu'il est l'amour divin, que nécessairement, il doit dépasser la mort. Mais le mystère de la résurrection le manifeste et me fait comprendre comment, de fait, l'amour divin est capable de dominer la mort, de se servir de la mort pour exprimer que cet amour est éternel. Et par la résurrection, l'amour divin reconquiert le corps. Et donc l'amour divin n'a jamais abandonné. L'amour divin l'a enveloppé pour lui donner une nouvelle signification. Et le cadavre du Christ, c'est le cadavre d'un Dieu. C'est donc un cadavre unique qui subsiste dans le Verbe de Dieu. Et il manifeste encore l'amour divin. Dans la perspective du mystère de Jésus, je peux comprendre que l'âme immortelle, elle est béatifiée, et donc elle vit une béatitude éternelle. Elle est pleinement épanouie, divinement, dans la vision béatifique. Et que cette âme, parfaitement épanouie dans la vision béatifique, cependant, demeure en appel vis-à-vis du corps. La béatitude de l'âme spirituelle, dans ce qu'elle a de plus spirituel, n'est pas la plénitude de la béatitude humaine. Il y a la glorification du corps, affirmer. La foi va plus loin que l'expérience, c'est le propre de la foi. La philosophie dépend de l'expérience. La théologie, grâce à la foi, est suspendue à la révélation de Dieu. Par la révélation de Dieu, elle peut aller plus loin que l'expérience. Elle fait comprendre, à travers le mystère de Jésus, que le mystère de la résurrection permettra l'épanouissement plein de ma béatitude. Et qu'avant le mystère de la résurrection de mon corps, mon âme est pleinement béatifiée d'une façon spirituelle et qu'elle demeure en attente de la résurrection du corps. M'arrête parce que je t'ai promis de pas aller trop loin. Alors, on continuera l'année prochaine si vous voulez. Et si vous voulez, si vous avez un sujet très particulier que vous aimez, je n'hésiterai pas de le dire. Parce que c'est quand même important. Travaillons ensemble. Et je veux beaucoup que ces cours soient un travail ensemble. Alors, vous verrez. Si un problème particulier que vous aimez spécialement, la personne humaine, par exemple, l'âme et la personne humaine, c'est un sujet très haut.
Je comptais à ça un instant. Ah, oui.